Alors, je dois vous parler de la vie dans l'esprit. Et je vous propose, dans un premier temps, de prendre votre Bible à Saint-Luc, chapitre 19, versets 1 à 10. C'est l'épisode de Zachée, que nous connaissons tous très bien. Entré dans Jéricho, il traversait la ville et voici un homme appelé du nom de Zachée. C'était un chef de publicains et qui était riche. Et il cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne le pouvait à cause de la foule, car il était petit de taille. Il courut donc en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Arrivé en cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit « Zachée, descends vite, car il me faut aujourd'hui demeurer chez toi. » Et vite il descendit et le reçut avec joie. Ce que voyant, tous murmuraient, ils disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, debout, dit au Seigneur, « Voici, Seigneur, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai extorqué quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Et Jésus lui dit, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. » Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Si j'ai choisi ce texte de Zachée pour introduire cet enseignement, c'est qu'il m'a semblé que nous étions tous quelque part des Zachées. Et Jésus nous interpelle tous, « Aujourd'hui, il faut que je demeure chez toi. » Et la vie dans l'esprit, finalement, c'est ça. Jésus veut demeurer en nous. À nous de l'accueillir, à nous de lui faire de la place. Et quand vous lisez les évangiles, vous voyez que, ou même la Bible en général, quand on a le mot « aujourd'hui », c'est toujours, j'allais dire, un moment important où Dieu veut faire cette rencontre avec l'homme. Et tout le problème, c'est que l'homme, eh bien, on est tous, j'allais dire, versatiles et on n'est pas toujours très accueillant à la présence de Dieu. Et on voit bien que dans la progression du récit de Zachée, eh bien Zachée va, par son accueil, par son oui, par sa réponse à Jésus, eh bien il va poser un acte de foi, il va permettre à l'Esprit Saint de rentrer dans son cœur et de véritablement accueillir Jésus chez lui. Alors on pourrait faire un parallèle avec Genèse 3, 7, 11. C'est le récit de la chute. Je ne vois rien du tout. Elle est plus grosse. Je suis désolé, mais c'est l'âge qui vaut ça. C'est le récit de la chute d'Adam et Ève, et après avoir mangé le fruit, ils se cachent dans le jardin, et ils se cachent parce que d'abord ils s'habillent parce qu'ils étaient nus, et quand ils entendent les pas de Dieu dans le jardin, ils vont se cacher. Leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils surent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des pagnes. Or ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin au souffle du jour. L'homme et la femme se cachèrent devant le Seigneur Dieu au milieu des arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu ? » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur car j'étais nu et je me suis caché. » Dieu cherche l'homme et Dieu sans cesse nous cherche. Mais depuis le péché d'Adam et Ève, c'est l'homme qui se cache de Dieu et d'une certaine manière, eh bien, à chaque fois, par exemple, pour Zachée, si vous avez remarqué, Dieu est allé au-devant de Zachée. Jésus est allé au-devant de Zachée. Et ici, dans le récit de la chute, eh bien, c'est aussi ce même mouvement où Dieu, finalement, attend que l'homme le trouve. Et il y a un aspect très important, c'est de voir que Dieu respecte toujours notre liberté. Dieu ne violera jamais notre liberté. Il n'ira jamais contre notre volonté. Il accueillera toujours, j'allais dire, nos désirs, notre désir, notre volonté, hein, comme une marque d'adhésion à sa présence. Et si nous refusons Dieu, Dieu ne se montrera jamais. Mais si nous lui faisons un peu de place, alors Dieu, eh bien, vient à notre rencontre et se révèle. Et c'est pour cela que, d'une certaine manière, eh bien, nous sommes tous des zachées et que nous avons tous besoin de faire cette rencontre avec le Seigneur. Et nous savons bien que, aussi, en tant que chrétiens, bah, par le baptême, nous sommes devenus des chrétiens et nous savons que la finalité de notre existence, c'est la vie éternelle. C'est le but de la vie chrétienne. Hein. Nous sommes appelés les uns et les autres un jour à rentrer dans la gloire de Dieu. Et pour cela, eh bien, je dois aussi apprendre et accueillir la présence de Dieu dans ma vie. Parce que si je ne pourrais jamais, j'allais dire, aller au ciel, entre guillemets, comme on parle, si ma porte est toujours fermée. Et nous avons besoin les uns et les autres de cette conversion à laquelle nous sommes appelés. Conversion qui est ce mouvement où je m'ouvre à la présence de Dieu, où c'est ce mouvement où je me tourne vers cette présence. Et dans les évangiles, on voit bien que Jésus, eh bien, lorsqu'il fait des miracles, les personnes qui bénéficient de ces miracles, eh bien, ont tous un mouvement de conversion, un mouvement par lequel ils se tournent vers la source de la grâce, vers celui qui véritablement leur donne une lumière par laquelle, eh bien, ils existent. Ils apprennent, ils se découvrent comme véritablement des personnes. Et c'est en même temps le début de cette vie spirituelle, puisque finalement l'accueil de la présence de Jésus dans notre vie, eh bien, c'est justement cet accueil de l'Esprit Saint qui vient en nous et qui va nous aider à vivre l'Évangile. Et cela fait que notre foi, eh bien, va être, j'allais dire, va éclairer le sens de notre vie. Alors, là, vous savez que le pape Benoît XVI et le pape François ont écrit une encyclique sur la foi, et je ne sais pas si vous l'avez lu ou travaillé les uns et les autres, mais vous pourriez la reprendre et puis la travailler, et elle me paraît très importante parce qu'il rappelle un certain nombre d'éléments sur la foi qui nous permettent justement, eh bien, de rentrer, c'est-à-dire beaucoup plus profondément dans une vie chrétienne, de véritablement se dire, ben, on se pose souvent des questions, comment être chrétien, qu'est-ce que la foi, et les papes nous donnent un certain nombre d'éléments que l'Église a toujours répété, mais qu'il est bon de savoir, de nous rappeler aujourd'hui. D'abord que, comme disait Père Pierre-Marie dans son homélie, la foi, c'est la rencontre avec une personne. Hein, c'est la rencontre avec le Christ. Et le cœur de notre foi, c'est le Christ. Et la foi chrétienne, elle est centrée sur le Christ. Si notre foi n'est pas centrée sur le Christ, alors on se trompe, j'allais dire, de religion. Hein, et ça, c'est très important. C'est le Christ qui est l'objet de notre foi. Et c'est le Christ pour lequel, eh bien, je dois me mettre en route. Et c'est lui qui me met en route et qui me donne justement, qui me montre le chemin du royaume. Quand le Christ parle « le royaume de Dieu est au milieu de vous », eh bien ce royaume de Dieu, c'est sa personne, elle-même, mais c'est aussi, j'allais dire, ce royaume futur qui sera cette éternité à laquelle il nous appelle tous. Et le Christ dira « celui qui croit en moi, eh bien je lui donnerai la vie éternelle hein ». Et ça, c'est une promesse que le Christ nous fait à chacun d'entre nous, à chaque personne qui se met à croire, qui a la foi. Et en même temps, eh bien, les papes nous rappellent que avoir la foi, eh bien, c'est écouter, savoir écouter. Ce qui n'est pas toujours évident, parce que nous écoutons souvent d'une oreille et cela passe, cela coule sur nous. Et alors que l'écoute telle que le Christ nous invite à écouter, eh bien, c'est véritablement cette écoute avec le cœur. Écouter avec le cœur, c'est-à-dire que nous sommes appelés à lire les Saintes Écritures et à accueillir ces Saintes Écritures dans notre cœur pour qu'elles puissent produire son fruit. Vous savez, Jésus le dira lui-même, la pluie tombe sur la terre et produit son effet. La pluie en elle-même, quand elle tombe sur nous, elle nous mouille, d'accord. Mais quand elle tombe sur la terre, elle produit son effet et elle permet aux graines de germer. Et toute une vie apparaît. Et bien, la parole de Dieu, quand on la médite et quand on la lit, elle produit aussi ce même effet, mais elle produit en nous des fruits, les fruits du royaume, les fruits que Dieu en attend. Elle produit en nous ce que Dieu attend que nous mettions en œuvre pour justement devenir ses amis, pour être véritablement ses amis. Parce que dans la foi, et bien justement, Jésus, lorsqu'il vient à notre rencontre et qu'il se montre à nous, désire une seule chose, c'est que nous devenions ses amis. Uniquement que nous rentrions dans cette relation d'amitié avec lui. D'une certaine manière, je dirais, la foi est assez simple. C'est simplement devenir les amis de Jésus et accueillir Jésus au milieu de nous, dans notre cœur. Alors, ça paraît très simple comme ça, mais c'est peut-être plus compliqué. Mais en même temps, c'est ce que Jésus attend de nous. Il ne nous demande pas autre chose. Dans les évangiles, quand Jésus convertit quelqu'un, lui fait un miracle, il ne lui demande pas, bon, mais maintenant, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Non, il lui dit simplement, va. Alors, il dit à la femme adultère, va et ne pêche plus, d'accord. Il dit à d'autres, viens et suis-moi, oui. Mais à beaucoup, il les renvoie en disant, bon, mais maintenant, va témoigner, mais il ne donne pas d'autres ordres au niveau de ceux qui sont convertis. Et les papes nous disent aussi, cette foi à laquelle nous sommes appelés, eh bien, elle n'est pas un refuge pour ceux qui seraient sans courage, mais au contraire, la foi en Jésus-Christ, eh bien, elle nous appelle à un épanouissement de notre vie. Et ça, je pense que c'est très important, parce que aujourd'hui, où la foi est à l'air, j'allais dire, entre guillemets, de reculer dans nos pays, eh bien, on voit bien que la manière dont on perçoit la foi est de manière très négative, alors que, justement, la foi est, j'allais dire, tout ce qu'il y a de plus positif dans la vie de l'homme, puisqu'elle lui permet véritablement de devenir pleinement homme, de découvrir sa dignité et de véritablement d'accomplir véritablement, eh bien, sa vocation d'homme. Épanouissement de la vie dans le sens où, comme le disait aussi Père Pierre-Marie dans son homélie, eh bien, la foi n'est pas une morale. Si elle était une morale, elle deviendrait insupportable, parce que si elle est déconnectée de la présence du Christ, eh bien, ça deviendrait du stoïcisme plus qu'autre chose. Et alors que la foi, c'est cette rencontre avec Jésus, et que c'est parce que je connais Jésus, parce que je fais cette rencontre avec celui qui nous aime d'un amour infini, eh bien, que véritablement, je me mets en route à sa suite, et que je vais me convertir, c'est-à-dire changer de vie, et que je vais adhérer à, je vais dire, oui, je vais devenir un être moral, entre guillemets, parce que je connais le Christ, et parce que j'aime le Christ, et que je me sais aimé par lui. Et ça, c'est totalement différent. Ce n'est pas, j'allais dire, la foi n'est pas une morale en tant que telle, une manière de vivre, elle est justement d'abord cette rencontre avec le Christ et véritablement cette adhésion à la personne du Christ. C'est important parce que les uns et les autres, eh bien, on s'aperçoit que dans nos vies, nous avons besoin de conversion. Nous avons besoin de nous convertir et on n'est jamais, jusqu'à la fin de notre vie, on est appelé à se convertir, à se tourner vers Dieu. Parce qu'on n'a jamais terminé, j'allais dire, de découvrir la personne du Christ. On n'a jamais terminé d'aimer. Finalement, la conversion, c'est découvrir qu'on est aimé et que Dieu en retour veut être aimé. Et dans cet amour, eh bien, nous avons toujours à apprendre à aimer plus. Dans l'amour, on peut toujours aller un peu plus loin. On n'a jamais fini d'aimer. Si un jour vous dites, oh ben maintenant j'ai suffisamment aimé, j'arrête, je suis arrivé au sommet, je suis vraiment... Alors là, vous allez vous casser la figure parce que on peut toujours aimer un peu plus. Et lorsque on vit dans la vie de l'esprit, qu'on voit qu'on désire profondément, j'allais dire, avancer avec le Christ, eh bien on sent bien qu'il y a des moments, le Seigneur nous demande un peu plus. On pense, bon aujourd'hui, alors, je fais beaucoup de choses bien, bon alors on pense qu'on a, bon, aujourd'hui on a fait tout ce qu'il fallait. Et puis il y a la dernière petite chose, et le Seigneur nous dit, tu vois, je te demandais encore ce petit effort, et là tu chutes. Ben, c'est que tu n'es pas encore arrivé là où je veux que tu arrives. Et dans l'amour, on peut toujours aller un peu plus loin. Et le un peu plus loin, eh bien, il se trouve, j'allais dire, pour le Christ, c'est son sacrifice à la croix. Et puis pour les saints, eh bien, quand on voit un saint, eh bien, c'est véritablement quand ils arrivent au martyr, d'arriver à accepter de donner sa vie pour un autre, en mourant, j'allais dire, pour le Christ, en mourant sur la croix. Donc l'amour est toujours, nous avons toujours à aimer un peu plus. Et dans notre vie spirituelle, il faut bien, j'allais dire, la vie avec le Christ, eh bien, c'est, on est, j'allais dire, appelé à cet amour. On est appelé à vivre cet amour au quotidien. C'est pas un jour par-ci, un jour par-là, non, c'est tous les jours, à chaque instant. Et c'est ce qui est souvent difficile, c'est parce que, eh bien, nous avons... un certain nombre, j'allais dire, nous avons du caractère, et que ce caractère n'est pas forcément dompté, et que l'Esprit-Saint ne nous a pas encore donné une grâce plénière de douceur et d'affabilité, comme certains saints arrivent à la fin de leur vie, hein, comme saint François de Sales, qui à la fin de sa vie était d'une douceur remarquable, mais alors qu'il était un homme extrêmement violent, et qu'il a, toute sa vie, il a appris à se dompter et à devenir un doux. Hein, et donc, et ça, je pense que ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'il ne faut jamais penser qu'on est arrivé. On peut toujours aller un peu plus loin. Et en général, le Seigneur, quand on pense qu'on est arrivé, nous fait vérifier qu'on a encore besoin d'un petit quelque chose. Hein, et ce petit quelque chose, il est toujours à rallonge, un peu comme couteau de Janot. Hein, et ça, c'est une chose... c'est bon pour l'humilité. Parce que ça nous fait descendre de notre orgueil... de notre piédestal qui est au sommet de l'orgueil et qui nous fait descendre, parce que finalement la vie du chrétien, eh bien, va se traduire la vertu de base du chrétien, c'est véritablement l'humilité qui est, j'allais dire, à l'opposé de l'orgueil et qui est l'antidote de l'orgueil. C'est vraiment le seul remède à l'orgueil, c'est cette humilité qui fait que je me mets à ressembler un peu plus à Jésus. Notre fondateur, le Père Lamy, disait, quand on pense qu'on a de l'humilité, hop, on n'en a plus. Donc vous voyez, c'est quelque chose de... Il ne faut jamais dire, oh ben maintenant je suis arrivé à un certain degré d'humilité, je suis quelqu'un de bien. Alors cela, c'est que vraiment on impose un bel acte d'orgueil en pensant qu'on est arrivé à un certain degré d'humilité. L'humilité, c'est vraiment, j'allais dire, un oubli de soi en même temps. Hein, ça amène, j'allais dire, à accueillir l'autre toujours comme quelqu'un de plus grand que moi et de plus qui est plus. Hein. L'humilité, en même temps, accueille tout le monde. L'humble est celui qui véritablement va être capable, j'allais dire, d'accueillir toutes les situations sans, j'allais dire, avec un grand cœur, oui, avec une grande humilité, bon, c'est pas très bien dit. Ce qui est important dans cela, c'est que l'humilité est à la base de la vie chrétienne. Et en même temps, on s'aperçoit que l'humilité va être aussi au cœur de la conversion. Hein, cette conversion qui est ce mouvement du cœur qui me fait découvrir aussi la miséricorde de Dieu. Parce que dans la conversion, qu'est-ce qui va se passer? Je me découvre aimé par Jésus. Hein, je découvre l'amour, l'amour, l'amour. Et donc, je vais me découvrir aimé par Jésus, et en retour, eh bien, Dieu n'attend qu'une chose de moi, c'est d'être aimé. Et souvent, nous avons des mouvements qui sont contradictoires, parce que quand on se convertit, on se dit, oui, mais alors, finalement, comment est-ce que je peux être aimé par quelqu'un d'aussi bon, moi qui suis un pécheur et qui est véritablement, qui n'est pas digne d'être aimé. Et bien là, il faut vraiment, j'allais dire, il faut faire un mouvement d'humilité profondément au niveau de son cœur, parce que Jésus, justement, est venu pour nous. Il est venu pour les pécheurs, il est venu pour les pauvres, il est venu pour les faibles, il n'est pas venu pour les intelligents, il n'est pas venu pour les forts, il n'est pas venu pour les orgueilleux. Il est véritablement venu et il est descendu sur la terre pour nous rencontrer dans notre misère et dans notre péché. Et ça, c'est important. Il n'y a aucun péché que le Christ ne peut... il y a aucun péché que le Christ ne peut pas pardonner. Il peut tous les pardonner à partir du moment où ce mouvement du cœur que nous avons, eh bien, reconnaît humblement devant Dieu sa pauvreté et son péché. Cet abaissement, de toute façon, cet abaissement que le Christ nous demande, vous inquiétez pas, lui-même s'est abaissé encore plus que nous tous, hein, puisque lui qui était Dieu s'est fait homme, et que dans cette condition de Dieu, il est devenu homme, eh bien, cet abaissement est plus grand que tous les abaissements que nous pourrions faire les uns et les autres par rapport à notre péché. Et le Christ, en plus de ça, eh bien, s'abaisse à notre niveau pour prendre notre péché sur lui. Donc c'est pour ça qu'en même temps, si vous voulez, dans cette relation avec le Christ, eh bien, nous n'avons pas à avoir peur, au contraire, nous avons à être, j'ai dire, des gens joyeux de se savoir aimer et pardonner. Et en même temps, des gens qui sont miséricordiés. Parce que c'est cette miséricorde, c'est l'amour de Dieu pour nous qui fait que nous sommes, j'allais dire, accueillis par lui et relevés par lui. Parce que dans le mouvement de la conversion, eh bien, il y a un mouvement aussi de relèvement. Hein, le Christ n'est pas venu pour que l'homme soit écrasé par son péché et qu'il se damne pour l'éternité, mais au contraire, le Christ est venu pour nous relever et faire de nous des hommes pleinement hommes, pleinement debout, hein, étant capable, j'allais dire, de découvrir pleinement la dignité de la personne humaine. Hein. Et Dieu, le Christ, nous rend complètement cette dignité. Et ça, c'est important parce que quand on commence une vie spirituelle, il faut découvrir cet amour de Dieu, cet amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Hein. Et quand vous lisez les évangiles et que vous voyez un miracle, les regards de Jésus sont très frappants. Dans le sens où quand Jésus regarde quelqu'un, eh bien, ce regard le fait exister. Si vous pouvez faire ce petit exercice, reprendre les évangiles et reprendre les passages où Jésus regarde une personne, vous voyez que ce regard, Jésus le regarda et l'aima. Jésus le regarda et la personne, eh bien, elle existe par ce regard. Elle devient pleinement elle-même. Et eh bien, pour nous, c'est la même chose. Jésus désire véritablement que nous soyons pleinement, j'allais dire, dans cette amitié avec lui. Et Dieu a fait l'homme pour lui. Il ne l'a pas fait, j'allais dire, pour que l'homme soit tout seul. Il ne l'a pas fait non plus l'homme pour lui-même, mais il l'a fait pour qu'il soit en relation avec Dieu. Et en ce sens, eh bien, notre dignité est immense. Nous sommes faits, nous sommes appelés à cette vocation, dans cette amitié avec la Trinité. Puisque nous sommes dans l'éternité, eh bien, nous serons, j'allais dire, les uns et les autres, dans cette contemplation, dans cette circulation d'amour que représente la Trinité, qui est cette réalité de la Trinité. Eh bien, cette vie dans l'esprit, c'est de découvrir que le Christ véritablement veut être notre ami, et qu'il veut véritablement développer cette relation d'amitié avec nous, et que nous soyons, que nous nous laissions aimer par lui. En sachant que nous ne pouvons pas, les uns et les autres, L'amour que nous pouvons donner, c'est un amour qui vient de Dieu. Nous ne pouvons que redonner ce que Dieu nous donne. Eh bien, nous laisser aimer par le Christ, c'est véritablement nous permettre, en retour, d'aimer le Christ, mais aussi d'aimer ceux avec qui nous vivons de manière toujours plus grande et plus intense. Et notre vie de foi, eh bien, ça va être justement aussi cette connaissance du Christ. Grandir dans la foi, il faut poser aussi les actes de la foi qui nous permettent de grandir. Et là, de ce côté-là, l'Église nous en a donné un certain nombre qui nous permettent donc, et qu'on en a entendu parler un certain nombre de fois depuis hier, cette vie de foi, elle va être nourrie par la lecture, la méditation des Écritures, mais aussi par la prière, le sacrement de la réconciliation et le sacrement de l'Eucharistie, qui est véritablement le sacrement de l'Eucharistie en lui-même, qui est véritablement le sommet de la vie chrétienne. En sachant que ce sacrement de l'Eucharistie, c'est Jésus qui se donne à nous, et quand on va communier, eh bien, il faut bien prendre conscience que c'est le Christ glorieux, mais pleinement présent, qui se donne à nous. Et c'est pour ça que l'Église en a fait, entre guillemets, une obligation pour tous les chrétiens. Ce n'est pas, une obligation à nous forcer à y aller, mais c'est une obligation vitale de vie spirituelle, parce que c'est là où véritablement notre vie spirituelle va venir se nourrir et s'enrichir. C'est là où le Christ, véritablement, peut venir se donner d'une manière de la plus pleine à nous. Dans la prière, c'est vrai qu'on fait la rencontre avec le Christ. Dans la rencontre des pauvres, c'est vrai qu'on fait la rencontre avec le Christ. Dans le sacrement de la réconciliation, c'est vrai qu'on fait une rencontre avec le Christ. Mais là où cette plénitude est la plus importante, c'est dans le sacrement de l'Eucharistie. Et pour ça que l'Église dit aux chrétiens, si vous voulez être véritablement branché sur la source de l'amour, eh bien, n'hésitez pas, venez au moins une fois par semaine le rencontrer, mais ceux qui ont ce désir au fond du cœur, allez-y autant de fois que vous le voulez, que vous le pouvez. Et ça me rappelle une histoire comme ça, un père de chez nous qui était passage au Vietnam, poser la question à un prêtre vietnamien en disant quel était le taux de pratique le dimanche. Alors le prêtre vietnamien, il ne comprenait pas. Alors il lui repose la question et le père en question dit « Ah, chez nous, un bon chrétien, il va tous les jours à la messe. Un mauvais chrétien, il y va que le dimanche. » Pour vous dire que, c'est une petite histoire, mais pour montrer que l'Eucharistie, c'est véritablement, la source de la vie chrétienne, et c'est là où on y trouve les forces pour véritablement découvrir ce que Dieu attend de nous. C'est pour ça que pendant cette retraite, on a justement la chance d'avoir l'Eucharistie tous les jours, et c'est un moment qui est important. Ce n'est pas simplement un moment où on vient pour chanter, même si les chants sont très beaux, et permettent d'élever l'âme, mais véritablement, le cœur de cette célébration, c'est le moment de la communion. C'est là, au moment où je reçois le corps du Christ. Et c'est là où, finalement, il y a cet échange. Dans une relation d'amitié, quand on est en amitié avec quelqu'un, on lui parle. Et là où cette relation va être la plus personnelle, c'est sûrement à ce moment-là, dans cette prière de l'Eucharistie, au moment de la communion. Et c'est vrai que l'Eucharistie, on y vient, on ne vient pas, on n'assiste pas à la messe, on vient pour y participer, ce qui est totalement différent. Parce que quand je viens à la messe, je viens pour rencontrer le Christ et je viens en même temps lui dire tout ce que je porte sur le cœur. Et lui, en retour, me dit par différents moyens, me donne des réponses à mes attentes. Alors vous avez la partie de la parole de Dieu, elle est importante pour ça, parce que la parole nous parle, elle est vivante cette parole, elle est là justement pour m'enseigner, pour me dire aujourd'hui ce dont j'ai besoin. Au moment de l'offertoire, quand le prêtre présente les oblats, c'est-à-dire le pain et le vin, présente le pain et le vin, eh bien, à ce moment-là, vous êtes invités, vous qui êtes participants à cette Eucharistie, à présenter vos demandes aussi sur cette patène, de déposer vos demandes sur cette patène pour que le prêtre puisse les présenter à Dieu et que Dieu, eh bien, les prenne en compte. Et le moment de la communion, ben c'est aussi ce moment important où c'est cette rencontre plus personnelle avec le Christ. Et ça va nourrir notre vie spirituelle, hein, puisque la vie dans l'esprit, c'est aussi justement de la fortifier, de l'enrichir de tous ces moments importants dans lesquels, eh bien, nous sommes appelés à développer cette relation d'amitié, et surtout de nous laisser aimer, hein, par le Christ. Il y a aussi un autre point important, c'est le sacrement de la réconciliation. Je sais que demain soir, il y aura une veillée de réconciliation. C'est le sacrement qui aujourd'hui est sûrement le sacrement le plus mal aimé dans l'Église. Parce qu'aller se confesser, ça, on a l'impression que vraiment, oulala, ça fait peur. Et pourtant, c'est le sacrement par excellence du progrès spirituel. Vous voulez progresser dans la vie spirituelle, confessez-vous régulièrement. Parce que par ce sacrement, vous allez apprendre à vous connaître. L'Esprit Saint va vous enseigner, va vous révéler les points sur lesquels vous avez à travailler pour progresser dans cette relation d'amitié avec Dieu, avec le Christ. Et dans ce sacrement, quand vous y allez, eh bien, n'y allez pas avec, entre guillemets, avec des pieds de plomb, parce que dites-vous bien que vous allez faire une rencontre avec Jésus. Un sacrement, c'est toujours Dieu qui se donne. C'est Dieu qui se donne à mon âme. C'est une rencontre personnelle avec le Christ. Alors c'est vrai que dans ce sacrement, il y a un intermédiaire, le prêtre. Mais il agit au nom du Christ. Comme l'Église le dit, in persona Christi, c'est-à-dire que le prêtre, eh bien, il est là, il est le représentant du Christ, et c'est lui qui donne cette grâce de l'absolution, hein, qui vient justement effacer les péchés. Et nous avons tous besoin de rencontrer la miséricorde de Dieu, de faire l'expérience de la miséricorde de Dieu dans le sacrement de la réconciliation. Nous avons tous besoin de ce sacrement parce que, eh bien, tous nous sommes des pécheurs. Hein, de ce côté-là, il n'y a pas, j'allais dire, on est tous à égalité. Il n'y a pas, j'allais dire, moi je suis plus grand pécheur ou moins grand pécheur. Nous sommes tous des pécheurs et nous avons besoin, besoin de l'amour de Dieu, besoin de sa miséricorde. Et pour apprendre et pour connaître ce que Dieu attend de nous, eh bien, je dois faire le ménage à l'intérieur de moi-même. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on ne s'est pas confessé depuis un certain nombre d'années, eh bien, les péchés s'accumulent. S'accumulent et forment finalement comme une croûte, si on peut parler comme ça, qui est un obstacle entre moi et Dieu, hein, comme une opacité qui se forme entre la lumière de Dieu et mon âme. Ce que le Christ désire, c'est que cette lumière divine puisse rentrer à flot en nous. Alors c'est vrai que Dieu, quand il fait éruption dans la vie d'une personne, de grands pécheurs par exemple, de gens qui étaient vraiment dans des états de péché extrêmement grands, leur donne Dieu les inonde de lumière et de joie, et ces gens-là font un retour à Dieu qui est souvent, j'allais dire, spectaculaire. Et l'un des effets de cette conversion, eh bien, c'est de voir ces gens qui changent de vie. Hein, on change de vie, on change de comportement et on chante la gloire de Dieu. Et puis, au bout d'un certain temps, ben, la vie reprenant le dessus, il faut après ça rentrer dans, j'allais dire, une pratique de la vie spirituelle qui nous permette véritablement d'accueillir et de vivre de la présence de Dieu. Mais ça, c'est un autre chapitre qui est que Père Marie développera. Mais qui est très important parce que c'est pas parce que j'ai fait une rencontre du Seigneur que la lumière m'a été donnée, que tout est terminé, je suis arrivé au septième ciel et que je peux m'arrêter. Non. Hein, la vie, elle continue. Hein, et jour après jour, je ne suis pas un champion de la charité et je suis et de ce côté-là, chaque jour, je commets des péchés. Alors des péchés, il faut bien comprendre ce mot-là. C'est tout ce qui est des manques d'amour par rapport à Dieu. Et comme je vous disais tout à l'heure, les péchés n'ont jamais empêché Dieu de venir nous aimer. Au contraire, le péché est le motif pour lequel il s'est incarné. Il est venu à notre rencontre parce que nous étions des pécheurs. Hein? Si l'homme n'avait pas péché, eh bien, Dieu n'aurait pas eu besoin de s'incarner. Il l'aurait peut-être fait, mais ça, on ne sait pas. Hein? Mais en tous les cas, il est sûr d'une chose, le Christ s'est incarné parce que nous étions des pécheurs. Parce que l'homme était coupé de l'amour de Dieu. Et que le Christ a voulu restaurer ce qui avait été brisé entre l'homme et Dieu. Hein, c'est l'homme qui est à l'origine du péché. Et ça, il faut bien dire une chose, c'est que nous-mêmes, eh bien, nous sommes, j'allais dire, nous avons tous besoin de cette rencontre avec le Seigneur pour accueillir sa miséricorde. Donc lui demander, et dans le sacrement de la réconciliation, de découvrir véritablement que ce n'est pas le prêtre à qui je vais dire mes péchés, mais c'est je vais faire la rencontre de Jésus. Je vais à la rencontre de celui qui m'aime. Et ça doit changer votre regard sur la confession. Hein. Je ne vous dis pas que ça ne sera pas difficile par moment en disant « Oh là là, il faut encore que j'aille dire la même chose. » Bon, mais ça, c'est autre chose. Ne vous inquiétez pas, on est tous des pécheurs, on fait tous les mêmes péchés. Et finalement, c'est... Hein, ce qui est toujours, j'allais dire, extraordinaire et nouveau, c'est l'amour. Le péché, c'est tout ce qu'il y a de plus, j'allais dire, entre guillemets, habituel ou banal ou commun aux uns et aux autres. Hein, on a tous, j'allais dire, les mêmes... globalement, si on faisait, si on ramenait tous les péchés dans la même manière, on verrait que finalement, sont tous semblables. Hein, mais... Ce qui est vraiment extraordinaire, ce qui est vraiment personnel, ce qui est vraiment qui sort de l'ordinaire, c'est l'amour. Les actes d'amour, c'est ce qu'il y a de plus, ce qui sort le plus de l'ordinaire. Hein. Et un acte d'amour, effectivement, est quelque chose d'extraordinaire. Donc, mais en tous les cas, pour ce qui est du péché, n'ayez pas peur de vous confesser, n'ayez pas peur de faire cette rencontre du Seigneur dans cette miséricorde. Et puis, on s'aperçoit que lorsqu'on a fait cette démarche, eh bien, ce qui nous permet de couper certaines casseroles, comme on traîne, ça nous rend plus légers. Hein, et ça nous permet aussi de nous relancer dans notre vie spirituelle. Souvent, dans la vie spirituelle, lorsqu'on commence à ramer, c'est que souvent, il y a un certain temps qu'on n'est pas allé au poste de confession. Et qu'on a besoin justement d'un bon coup de nettoyage pour nous relancer et nous permettre d'avancer. Parce que par exemple, vous êtes en retraite de discernement, ben, c'est vrai que le sacrement de réconciliation est un élément important de cette retraite pour vous aider aussi par la suite à discerner. Parce que dans le discernement, ce n'est pas, c'est pas votre accompagnateur qui va discerner pour vous, mais c'est l'Esprit Saint qui va vous aider à voir clair dans les choix que vous devez faire, parce que c'est vous qui êtes qui devez choisir, qui devez faire les choix. On peut vous aider à vous éclairer et vous conduire, mais on ne peut pas faire plus. Hein, il y a aussi, j'allais dire, votre personnalité. Vous avez à exercer votre liberté et votre volonté dans les chemins, dans le chemin que le Seigneur vous propose. Et bien, pour vous aider justement dans ce chemin, le sacrement de la réconciliation va être essentiel. Alors, donc moi, c'est ce que j'avais essentiellement à vous dire sur cette vie dans l'esprit. Je sais qu'on pourrait dire beaucoup d'autres choses avec la vie dans l'Esprit Saint, mais je pense qu'il y a une question, j'allais dire, de base sur laquelle il faut partir, et à partir de laquelle, eh bien, on peut construire et on peut, j'allais dire, développer cette vie spirituelle avec le Seigneur. Après ça, vous avez aussi toute l'amitié avec les saints, qui est une chose qui sont des moments, enfin des éléments importants pour développer notre vie spirituelle, pour lui permettre d'être, comment ça s'appelle, de prendre d'une certaine manière des couleurs, des accents différents, parce que les saints, eh bien, ce sont ceux qui ont vécu de manière la plus parfaite sur cette terre de la présence de l'Esprit Saint. De la présence, ils ont vécu l'Évangile. Hein, puisque quand on déclare quelqu'un saint, l'Église dit le premier degré, c'est la reconnaissance d'avoir vécu les vertus héroïques de l'Évangile. Hein, donc c'est que l'Évangile est véritablement au départ le livre de chevet que l'on doit avoir les uns et les autres dans la vie chrétienne pour, j'allais dire, s'exercer à cette vie chrétienne. Hein, et vous inquiétez pas, l'Esprit Saint qui est là et qui nous conduit, eh bien, saura bien vous aider à les mettre en œuvre. Parce que celui qui est chargé de nous faire grandir dans la vie spirituelle, c'est l'Esprit Saint. Hein, rappelez-vous, le jour de l'Ascension, les apôtres, quand Jésus est remonté au ciel, les anges ont dit, maintenant, aux apôtres, allez au boulot. Et ils ont passé un certain temps, d'abord, à prier avec Marie, pour appeler l'Esprit Saint sur eux. Et l'Esprit Saint, véritablement, et Jésus leur a dit, je vais vous envoyer un défenseur, un avocat, c'est lui qui vous rappellera tout ce que vous devez faire. Donc, c'est lui qui nous conduit, et c'est lui qui conduit l'Église. Donc, nous devons avoir confiance, justement, et c'est pour ça que l'Église, depuis 2000 ans, continue, parce que c'est l'Esprit Saint qui en est le cœur et qui la conduit. Si ça avait été laissé à des hommes, ne vous inquiétez pas, elle n'existerait plus déjà. Mais comme c'est l'Esprit Saint qui la conduit et qui suscite des saints dans l'Église pour lui permettre justement de prendre, de se réformer, de découvrir de nouvelles voies pour évangéliser, pour annoncer la bonne nouvelle, eh bien c'est, et nous, eh bien c'est la même chose. Hein. Nous avons les uns et les autres à accueillir le don de l'Esprit Saint dans nos vies pour nous laisser justement conduire par lui, pour qu'il nous enseigne, pour qu'il nous dise ce dont nous avons besoin, ce que l'Église a besoin aujourd'hui pour véritablement, eh bien, que cette bonne nouvelle soit annoncée. Parce que c'est ça aussi l'enjeu. C'est pas simplement, j'allais dire, un petit don qui... La vie dans l'esprit n'est pas faite simplement pour soi. Elle est faite aussi pour être, j'allais dire, pour donner vie à ceux avec qui nous vivons, pour témoigner de la présence du Christ dans le monde.